VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal au Burkina Faso. Nouveau report du procès des 34 ministres du dernier gouvernement de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Procès qui devait s'ouvrir ce jeudi. On veut un débat serein pour aboutir à un procès équitable, a affirmé le président de la Haute Cour de justice à Ouagadougou, le député Mathieu Bebrigda Ouedraogo. Nous allons donc accéder à la demande de renvoi pour reprendre le lundi 8 mai, a-t-il ajouté. Les avocats de deux prévenus ont sollicité ce renvoi pour prendre davantage connaissance du dossier. Le 27 mai, le président du tribunal avait déjà renvoyé les débats à la demande du bâtonnier pour cause de rentrée du barreau burkinabé. Les 34 ministres du dernier gouvernement Compaoré, dont une vingtaine étaient présents ce jeudi, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et blessure volontaire pour avoir participé au Conseil extraordinaire des ministres du 29 octobre 2014, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants contre la modification de la Constitution qui devait permettre à l'ex-président Compaoré de briguer un nouveau mandat. Au Mali, les attaques d'éléments armés contre la MINUSMA, la mission onusienne et les forces gouvernementales continuent. Dans le collimateur des assaillants mercredi après-midi, le camp de la MINUSMA à Tombouctou. Bilan, un mort et 9 blessés, dont 4 grièvement. L'ONU confirme aujourd'hui que le casque bleu décédé vient du Libéria, mais sans préciser la nationalité des blessés. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est le super camp de la MINUSMA bâti sur une superficie de 52 hectares situé à 4 km du centre-ville de Tombouctou qui a fait l'objet d'une attaque terroriste. Selon les responsables à la communication de la MINUSMA, 6 obus ont atterri sur leur super camp. Le bilan est d'un mort, 9 blessés parmi les casques bleus, dont 4 grièvement qui ont été évacués à Bamako. Des dégâts matériels ont été également causés. Aucun personnel civil n'a été affecté. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, le départ du ministre de l'Énergie suscite des débats. L'ancien ministre aurait refusé de signer la cession de 2 blocs d'exploration pétrolière au groupe français Total. Tiono Alassane Sall avait déjà été limogé du gouvernement en 2014 suite à sa défaite aux élections locales dans la ville de Thiès, où il est le coordonnateur de la majorité au pouvoir. Son nouveau limogeage soulève beaucoup de questions sur la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Le député Cheikh Oumar Sy appelle à une plus grande transparence dans cette affaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nous essayons encore de retrouver le député Cheikh Oumar Sy. Impossible de le trouver, nous essaierons un peu plus tard. En RDC, l'épiscopat catholique, dans un rapport confidentiel, exhorte les autorités congolaises à permettre à l'opposant Moïse Katumbi de retourner en nombre libre dans son pays après un an d'exil. Monsieur Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles appartenant à un ressortissant grec. L'opposant Katangé attend aussi de comparaître devant la justice pour une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Les autorités congolaises ont promis de l'arrêter dès son retour au pays. Crise en Libye maintenant, les Émirats arabes unis restent optimistes après la récente rencontre entre les deux principaux protagonistes du conflit libyen à Abu Dhabi. Un sujet abordé mercredi par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de ses entretiens dans cette même ville. Le point avec Jacques Aristide.
Au début de sa visite de 2 jours, le président Sissi s'est entretenu avec le prince héritier d'Abu Dhabi de la crise libyenne. Le président égyptien est un allié du maréchal Khalifa Haftar, chef des forces armées des autorités parallèles dans l'Est libyen, rival de Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. Les deux hommes ont tenté à Abu Dhabi de trouver un terrain d'entente sur un règlement de la crise libyenne. Pour le ministère des Affaires étrangères, des Émirats arabes unis, la rencontre entre Sarraj et Haftar suscite de l'optimisme quant à une solution politique en Libye. L'Égypte, l'Algérie et la Tunisie ont également joué un rôle dans le rapprochement des points de vue entre les belligérants. Les Émirats veulent qu'un nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye soit nommé en remplacement de Martin Kobler. L'ONU avait proposé le Palestinien Salam Fayyad pour le poste, mais les États-Unis ont mis leur veto.
En Algérie, quelques 23 millions d'Algériens sont appelés aujourd'hui aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Mais l'abstention s'annonce élevée après une campagne sans élan ni surprise. 12 000 candidats sont en lice pour les 462 sièges de l'Assemblée nationale populaire, la chambre basse du Parlement. 45 000 policiers sont déployés autour des centres de vote pour assurer la sécurité du scrutin. On passe maintenant à l'actualité américaine. La Chambre des représentants doit voter aujourd'hui sur un projet d'abrogation et de remplacement de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie de l'ancien président Barack Obama. Le leader de la majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, qui a annoncé la nouvelle, assure qu'après l'échec du 24 mars dernier, où le vote sur le projet de loi avait été ajourné faute de soutien, le nombre requis de voix pour l'adoption de la nouvelle mouture de la législation est maintenant réuni. Pour sa part, la minorité démocrate reste catégoriquement opposée à l'abrogation de l'Obamacare. Par ailleurs, le président Donald Trump rencontre ce jeudi à New York le premier ministre australien Malcolm Turnbull. C'est le premier retour du chef de l'exécutif américain dans sa ville natale depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Mais si le président Trump reste populaire chez ses électeurs, ce n'est pas tout à fait le cas à New York. Le reportage de Tina Trin, présenté par Lionel Gaïma.
Tout le monde est le bienvenu à New York, clame cette publicité de la mégalopole avec ses plus de 8,5 millions d'habitants. Pourtant, il n'y a pas de garantie que l'accueil qu'elle réservera à l'un de ses fils les plus célèbres, le président Donald Trump, sera chaleureuse.
He's not welcome here.
Il n'est pas le bienvenu ici, déclare sans embâge Amanda Johnson, directrice du parti de famille laborieuse, qui attend se joindre à d'autres manifestants contre la venue du président Trump. Elle n'est pas la seule. Souther Teague et Ravi De Rossi ont ouvert un bar où des gens peuvent faire des dons à des organisations dont l'existence est menacée par la politique de Donald Trump. L'un des clients dit qu'il supporte de plus en plus mal cette administration. 100 jours, je souhaite que la souffrance diminue, mais ce n'est pas le cas. Chaque jour, on est à se demander qu'est-ce qui se passe au juste. Bien entendu, tous les Américains ne vivent pas dans les grandes villes comme New York, explique Marc Moreau de la Brookings Institution, un groupe de réflexion de Washington.
We have other less urban places in which people are living.
Nous avons d'autres endroits moins urbanisés où la population est moins dense, plus rurale et souvent au chômage. Donald Trump a été un candidat du monde rural qui a attiré beaucoup d'électeurs dans les zones rurales peu peuplées.
Populated counties.
Trump a remporté 2584 comtés contre 472 pour Hillary Clinton. Toutefois, la Brookings Institution révèle que les comtés gagnés par Trump contribuent pour moins au PIB des États-Unis, soit 36% contre 64% pour ceux ayant voté pour Madame Clinton. Donald Trump a perdu la ville de New York par une marge d'un vote sur cinq. Les sentiments de la grande métropole à son sujet n'ont pas changé depuis la présidentielle de novembre. Soutien à Amanda Johnson du Parti des familles laborieuses.
Nous apprécions le succès des gens qui s'efforcent de réaliser leurs rêves. Cette ville, c'est celle des débrouillards. À ce que je comprends, lui a réussi en foulant aux pieds les gens et nous n'acceptons pas cela.
Cela n'empêchera pas pour autant le président Trump de s'entretenir avec le premier ministre australien Malcolm Turnbull à bord de l'USS Intrepid, un ancien porte-avions transformé en musée sous le fleuve Hudson à New York.
Et pour terminer, campagne présidentielle en France, choc frontal et virulent hier soir lors du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux finalistes de la présidentielle française. À 4 jours du second tour décisif dimanche, les échanges entre les deux candidats au programme diamétralement opposé ont souvent viré à la cacophonie et au pugilat verbal. Mais la grande majorité des observateurs estiment qu'Emmanuel Macron, qui mène dans les sondages, a eu le dessus dans le débat. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.